présenté par Perrine Kervran
et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Évian, la conférence de la peur, c'est le titre du documentaire que nous allons évoquer dans l'émission d'aujourd'hui. Un film qui retrace donc la conférence d'Évian, un moment souvent oublié des années de guerre et qui pourtant porte en lui des questions essentielles. En juillet 1938, 28 États se réunissent à Évian, à l'Hôtel Royal, pour évoquer le sort des réfugiés d'Allemagne et d'Autriche, qui, bien qu'ils ne soient pas clairement nommés alors, sont, bien entendu, pour l'essentiel, les Juifs persécutés par les nazis. Cette conférence est sollicitée par le président américain Roosevelt, sensible à la pression de l'opinion publique sur la question du sort de ces familles errant en Europe. Au terme de la conférence, les États auront tous affirmé leur incapacité à accueillir et prendre en charge ces populations, et cette conférence est finalement perçue comme le moment inaugural de l'abandon des Juifs. Mais était-ce si clair et aussi simple que cela? C'est ce que nous allons discuter avec Catherine Nicot, historienne, qui était la conseillère historique de ce film. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être on peut commencer, pour évoquer cette histoire de la conférence d'Évian, par parler des années 30, puisque dès 1933, des manifestations dénoncent les persécutions nazies. Par exemple, à Londres, il y a des manifestations qui s'intéressent déjà au sort des populations persécutées.
Je dirais même que c'est en 1933 que les manifestations les plus claires, les plus solidaires s'organisent à Londres, dans toutes les capitales en réalité. À Paris, il y a énormément de meetings qui se sont tenus avec des participants de la gauche, des chrétiens, des prêtres, des pasteurs, tout cela pour dire que l'avènement du nazisme et surtout les persécutions qui ont aussitôt accompagné cette arrivée au pouvoir d'Hitler à la chancellerie du Reich étaient insupportables, inadmissibles. Et il y a eu même un mouvement vraiment d'accueil très chaleureux des premiers réfugiés. Je peux parler en l'occurrence de la France. Il y a eu à peu près 20-25 000, c'est très difficile à chiffrer, réfugiés qui sont venus immédiatement en France à ce moment-là. Ils ont été très bien accueillis dans les premières semaines. Donc il y a vraiment eu un effort. Alors c'est après que les choses se sont très vite gâtées en réalité. Parce que c'est un poids financier important. Les États, dans le meilleur des cas, ne ferment pas leurs portes comme la France, mais n'entendent pas que ça soit une charge pour l'État français. Donc la charge de leur entretien revient aux communautés juives à travers différentes associations. Et puis, à partir de 1935-1936, commence à se préciser la menace de guerre. Et dans ce contexte, on voit se profiler ce thème extrêmement dangereux qui a joué à fond contre les réfugiés, qui est que les Juifs, au fond, sont des fauteurs de guerre, ont intérêt à ce que la guerre éclate et qu'il ne faut pas du tout entrer dans ce jeu, évidemment. C'est ça le contexte, si vous voulez, la toile de fond très grossière que je peux vous fixer. Alors, une date quand même pour nous situer en 1938, la proposition américaine de tenir une conférence internationale sur la question des réfugiés suit de quelques semaines un événement majeur qui est l'Anschluss. C'est en mars 1938 que le Reich annexe, en gros, avec son consentement, le consentement majeur de la population autrichienne, l'Autriche et ses Juifs, c'est-à-dire à peu près, on estime à 200 000 Juifs. Et là, il y a une recrudescence, il y a un palier supplémentaire qui est accompli par les nazis dans la persécution et dans la volonté farouche de les pousser dehors. Voilà.
Et puis il y a aussi cette question qui va se poser assez vite, c'est que jusque-là on considérait effectivement ces réfugiés comme des réfugiés, comme des victimes. Assez vite on va les considérer comme des ennemis potentiels, comme des Allemands, comme des Autrichiens.
Alors ouais, c'est un facteur dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, effectivement, mais au fur et à mesure que ces populations arrivent, on trouve qu'elles sont vraiment très germaniques, qu'elles parlent allemand, que c'est gênant, et les Juifs français sont au moins aussi patriotes que les autres, sinon plus, et sont extrêmement mal à l'aise devant cet état de fait. Et leur reprochent volontiers de ne pas se fondre assez vite dans le paysage. Voilà, c'est une donnée, effectivement, de la question. Et c'est une donnée qui est partagée avec un certain sentiment d'espionnite, surtout vers la fin de la période, dans la population.
Alors peut-être il faut, Catherine Nicot, revenir sur ce qui est le point de départ de la conférence. Donc en 1938, le nombre des apatrides, des exilés augmente sous le coup donc, des persécutions nazies qu'on vient d'évoquer. Et donc c'est une initiative américaine qui va mettre en place ce projet de conférence au départ.
Oui, tout à fait. C'est Roosevelt qui a lancé cette idée sur, semble-t-il, une suggestion de son secrétaire d'État qui s'appelle Cordell Hull. Les Européens sont assez surpris par cette initiative inattendue, puisqu'elle vient d'un président, au fond, qui est à la tête d'un pays qui applique une politique de quotas d'immigration très étroite, en quelque sorte. Donc, ce ne sont pas, c'est pas la population. Et tout d'emblée, d'ailleurs, Roosevelt dit aucun pays n'aura besoin de toucher, on ne lui demande pas de toucher à ses législations en matière d'immigration, hein, et l'Amérique la première. Et par ailleurs, c'est un président qui est à la tête d'un pays qui professe l'isolationnisme, c'est-à-dire une volonté de ne pas avoir affaire à toutes ces affaires européennes, à ne pas être imbriqué dans les risques et les menaces d'être entraîné dans une guerre, etc. Donc il y a effectivement une certaine surprise, oui.
Et qu'est-ce qui peut expliquer justement le fait que les États-Unis, qui à ce moment-là ne sont pas impliqués dans ce qui n'est pas encore le conflit européen, mais qui regardent ça quand même de loin, et le souhait d'organiser cette conférence et quelque part de l'imposer à l'Europe.
Alors, à mon avis, on n'a pas assez éclairci ce point. Disons qu'il y a une façon cynique d'envisager les choses, c'est de dire Roosevelt a en face de lui, bien que le pays soit majoritairement isolationniste et n'ait pas envie d'accueillir des hordes de réfugiés, surtout juifs, il a en face de lui quand même un mouvement en faveur d'une ouverture des États-Unis aux malheureux Européens, juifs notamment, qui n'ont pas où aller. Et c'est pour éviter en quelque sorte une sorte de pression au Congrès de cet ordre qui le mettrait en difficulté qu'il aurait pris les devants, si vous voulez, pour faire quelque chose dans ce domaine. C'est, même si on peut tenir que ce n'est pas complètement la raison, on ne peut pas exclure du tout cette explication qui est tout à fait cadre tout à fait avec un Roosevelt qui est extrêmement habile, hein, c'est un politicien tout à fait averti. Maintenant, quels sont exactement les buts poursuivis par Roosevelt? C'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas assez. C'est pas, finalement, ils ont assez peu d'espoir, semble-t-il, qu'un pays se révèle désireux d'accueillir des milliers et des milliers de réfugiés. En réalité, ce qu'ils veulent former, c'est un comité intergouvernemental pour les réfugiés, c'est-à-dire une sorte d'organisme international auquel ils pourraient participer, parce qu'ils ne peuvent pas participer aux organismes existants dans le cadre de la SDN, puisqu'ils n'en font pas partie, qui traiterait ce problème, parce qu'on peut faire crédit à Roosevelt d'avoir compris que c'était quand même un problème humain et un problème qui pèse en quelque sorte sur l'ambiance internationale, et que si on pouvait arranger un petit peu tout cela, ça serait aussi bien pour le climat général et pour essayer d'éviter une guerre.
Alors peut-être il faut revenir aussi sur les moyens, qu'on pourrait dire, matériels de cette conférence. C'est-à-dire que cette conférence n'aura pas lieu dans une instance gouvernementale, à la SDN, comme on aurait pu l'imaginer. Elle aura lieu donc dans un hôtel conçu, un hôtel de luxe, à Évian. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer comment finalement cette conférence finit par aboutir.
D'abord, vous avez compris, c'est dans un contexte un petit peu où la SDN est très embêtée par cette initiative, parce que ça se fait en dehors d'elle. Alors, est-ce que son rôle, le rôle de ces organismes, et en particulier du Haut Commissariat pour les réfugiés, qu'il a été décidé peu avant de créer en réunissant l'Office Nansen qui préexistait, qui traitait des réfugiés d'après la Première Guerre mondiale, et le Haut Commissariat pour les réfugiés juifs et autres d'Allemagne, du Reich allemand, qui avait été créé en 1933, c'était retirer quelque chose à la SDN à un moment où justement le thème de la coopération internationale, le thème de la sécurité internationale à travers la SDN était mis en danger, vous voyez. Donc il y a une concurrence. Alors il se trouve que la demande a été faite d'organiser la conférence à Genève, dans le palais de la SDN, mais c'est
la Société SDN, des Nations.
Hein. C'est la Suisse en fait qui a dit qu'elle ne le désirait pas. En fait, sous deux aiguillons, l'aiguillon de la SDN qui ne désire pas vraiment que ça se passe chez elle, parce qu'il y aurait confusion des genres en quelque sorte, et aussi parce que les autorités suisses sont de plus en plus inquiètes d'une possible invasion allemande et sont sous la menace se sentent sous la menace d'une invasion allemande. Donc voilà, les Suisses ont été très clairs sur le sujet. Et c'est au bout de pressions non négligeables que le gouvernement Daladier, qui dirige à ce moment-là la France, a accepté d'accueillir la conférence, non pas à Paris, parce que, dit-on, à Paris, il y a des tas de préparatifs à ce moment-là pour accueillir les souverains britanniques qui vont venir en visite officielle, et on les installe à Évian, le plus près possible que la France peut de la SDN et de l'autre rive du lac Léman. Alors, bien entendu, malgré tout, un certain décorum est assuré. C'est le Royal Hotel, un hôtel, une sorte de palace de l'entre-deux-guerres, dans des conditions très confortables. Mais on dit bien, et tout le monde s'entend là-dessus, il ne s'agit pas d'une conférence internationale, il s'agit d'un comité intergouvernemental pour discuter avec des gens qui ne font pas partie de la SDN, c'est-à-dire les Américains, de la question des réfugiés. Et à cela, il y a d'abord une question de ne pas vouloir donner trop d'ampleur à la chose, et aussi ça permet de ne pas inviter formellement les organisations non gouvernementales qui s'occupent de la question des réfugiés dans les faits.
Et il y a aussi ce souci que vous avez évoqué, ces considérations diplomatiques qui veillent à ne pas froisser l'Allemagne et de risquer un conflit.
Pas froisser l'Allemagne, mais bon, la France accepte quand même, mais elle rend bien clair qu'il ne faut pas être agressif vis-à-vis de l'Allemagne dans les propos. Et on peut lire maintenant dans le mémorandum qui a été tiré de tous ces débats, il n'y a pas une seule expression qui exprime une désapprobation, une condamnation encore moins de l'Allemagne. Ça, c'est très clair. On est dans une période d'appeasement. Il s'agit de ne pas provoquer l'Allemagne. On est à la veille quand même de Munich, même si on ne sait pas encore que ça va se produire, bien entendu.
Oui, c'est ça, nous, on a le regard d'après. On sait comment ça va tourner.
Mais c'est vraiment, ça serait très malvenu d'avoir un conflit à ce propos-là, sur une question jugée secondaire, avec l'Allemagne à ce moment-là.
Oui, et ce qu'on voit bien, ce qui est bien dit dans le film, Catherine Nicot, c'est aussi que finalement Berlin est assez ravi de cette internationalisation de la question juive et du fait que, voilà, on va finalement poser cette question. Vous ne voulez pas que nous livrions comme ça les gens sur les routes, mais vous n'êtes pas prêts à les accueillir non plus.
Tout à fait. Il y a une satisfaction sardonique, disons, parce qu'ils sont quand même, ils réservent leur jugement, ils sont assez sceptiques sur ce que les démocraties seront prêtes à faire. Mais je voulais souligner le fait que c'est un élément de plus à la thèse suivant lequel la Shoah n'est pas programmée à ce moment-là. C'est-à-dire que les Allemands, ce qu'ils veulent pour l'instant, c'est rendre l'Allemagne, le Grand Reich, Judenrein, c'est-à-dire sans juifs. On est dans une politique d'émigration. Voilà, on n'est pas dans une politique d'élimination physique.
Alors peut-être il faut aborder aussi cette question par rapport donc à cette conférence d'Évian. C'est que effectivement, vous avez évoqué ces associations humanitaires qui vont finalement s'inviter à cette conférence, qui donc n'en est pas une, et qui vont s'inviter pour justement mettre des mots sur cette question et puis pour évoquer les solutions qui sont possibles. Que peut-on faire de ces réfugiés juifs ?
Alors, il y a, on dit toujours 40 organisations, j'en ai compté exactement 39, mais peu importe.
39.
à qui il a bien fallu faire une toute petite place, un strapontin, la conférence, enfin les... Je vais dire conférence, mais on a bien rendu clair qu'on n'entendait pas comme ça, a nommé une sous-commission technique pour les écouter. Enfin, pas tous, il y en a 24. Il y a 24 personnalités qui vont pouvoir s'exprimer. Les 39 pourront remettre néanmoins des mémorandums qui vont être analysés. Puis ce sera l'objet d'un petit rapport très court qui sera communiqué aux autres, aux participants. En gros, ce qui ressort... Alors d'abord, précision, il n'y a pas que des organisations juives, même si elles dominent. Très nettement. Il n'y a pas que des organisations françaises, bien entendu. Il y en a un bon nombre. J'en ai compté 16. Quand je dis françaises, c'est celles qui sont à la fois ou françaises ou qui ont leurs bureaux centraux à Paris. Ça comprend des organisations sionistes importantes qui ont à ce moment-là leur bureau à Paris. Et puis, le reste, ce sont des organisations anglaises, tout y frottis, en quelque sorte. L'analyse, alors je n'ai pas les papiers qui ont été véritablement soumis. Je n'ai pas le texte, personne n'a le texte des allocutions qui ont été faites, qui ont été très rapides d'ailleurs, on leur accordait moins de 10 minutes, je crois. Mais il y a la synthèse, et la synthèse rend clair qu'en fait, ces organisations ont mis en valeur 4 solutions, parce qu'elles préconisent. Alors, ce qui vient en tête, c'est la solution sioniste, c'est la Palestine. Mais ça, le délégué britannique a rendu clair et net que ce n'était pas la peine d'y penser. On y reviendra sans doute. La deuxième solution, c'est de dire, eh bien, tous ces gens qui sont arrivés dans tel et tel pays d'accueil, eh bien, ce qu'il faut, c'est s'organiser pour pouvoir les intégrer. Seulement, c'est un peu tard déjà. Et puis, vous avez deux solutions j'allais dire très minoritaires qui ressortent, c'est ben, dans le monde, il existe encore des espaces libres. On devrait bien en dégoter, en trouver un pour y mettre les Juifs. C'est une vieille idée, on pourrait revenir aussi. Et puis enfin, il y en a une troisième qui est une idée un peu périmée quand même déjà à ce moment-là, qui date de la Première Guerre mondiale et de ses lendemains, c'est de trouver le moyen de garantir des droits aux minorités dans les pays où elles sont installées, et leur garantir leurs droits de façon internationale, ce qui était prévu au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais là, alors, c'est complètement... Qui aurait autorité sur l'Allemagne, ou sur la Pologne, ou sur la Roumanie, pour faire respecter les droits des minorités, n'est-ce pas ? Donc c'est un peu à côté de la plaque, voilà. Et surtout, ce qui est frappant, c'est le côté désordonné, le côté l'impossibilité d'avoir une vue sur laquelle tout le monde a consensus, en quelque sorte. Ça favorise quand même aussi l'échec de la conférence, d'une certaine façon, hein, parce que ça met en valeur à la fois la volonté des États unanimes de ne pas avoir des réfugiés en surplus, et du côté des organisations juives, pour une bonne partie, c'est la cacophonie aussi.
Oui, parce que c'est ce qui est assez frappant dans le film, qui donne à entendre, qui fait lire, hein, parce qu'on a tous les comptes rendus de chaque État, hein, de chaque discours de chaque État pour cette conférence d'Évian. Et on voit bien que les uns après les autres, il y a cette espèce de litanie qui s'installe, les uns après les autres, les États disent « nous ne pouvons pas accueillir de réfugiés, nous ne pouvons pas accueillir de réfugiés », et ça se répète, et ça se répète, et les associations commencent à se désespérer, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'issue, et on réévoque. Donc, ces solutions que vous avez évoquées, cette question de trouver un endroit vide ou cette question de la Palestine.
Tout à fait. Il y a même la désespérance des gens présents sur place qui ne sont pas des délégués est très précoce. Hein. On a des écrits de Golda Meir qui représentait l'agence juive. On a aussi le journal d'Arthur Rupin qui est tout à fait éloquent de ce point de vue-là. Il y avait une centaine de journalistes. Les journalistes les plus intéressés à la question sont partis très vite, hein, parce qu'ils ont compris que ça déboucherait sur rien de concret. Hein, voilà.
Alors justement, peut-être on peut évoquer cette question de cette terre vide qu'il faudrait trouver quelque part pour créer un endroit où on pourrait loger ces réfugiés juifs. Donc c'est une solution qui est à un moment vraiment évoquée. On évoque Madagascar. Voilà, il y a vraiment cette solution est évoquée à ce moment-là.
Et ce n'est pas la première fois, on n'en est pas au début. Hein. En fait, il faut bien réaliser, d'après ce que j'ai pu étudier, ce sont des organisations juives elles-mêmes en charge de la question des réfugiés qui ont le plus tôt pensé apparemment à des solutions de ce type. Le fameux plan Madagascar qu'on connaît dans sa version nazie, mais il faut l'oublier, ce n'est qu'un épiphénomène, en fait fait référence à un projet qui a été soumis par certaines organisations juives, notamment le comité Gourevitch, etc., en 1936-1937, au gouvernement de Front Populaire. Et à Marius Moutet, qui était le ministre des colonies, lequel, qui était tout à fait bien disposé, n'est-ce pas, lequel a commencé à faire procéder à des examens, à interviewer des gouverneurs de colonies, etc., et qui tout de suite a reculé, en réalité, d'abord devant les réactions peu enthousiastes des gouverneurs, sauf que celui de Madagascar n'est pas aussi hostile qu'on pourrait croire, mais surtout devant les espoirs manifestes que cela suscite dans des États comme la Roumanie et la Pologne, surtout la Pologne, qui se hâte de dire « Ah, mais c'est parfait, on pourrait, nous, nos 3 millions de Juifs, on ne demande qu'à les envoyer à Madagascar. » Et donc là, vous voyez, ça a complètement stoppé cette idée de trouver, en accord avec les organisations juives ad hoc, une possibilité d'établissement au loin, dans une partie de l'Empire français. Hein. Alors, on voit dans les actes de la conférence d'Évian que cette idée est reprise. On évoque encore Madagascar, parce qu'en fait, les autres pays disaient « qu'est-ce qu'il en est, au fait, de cette idée de Madagascar, qui était déjà enterrée ?» On évoque la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que la France a à nouveau dit « dans mon empire, je peux peut-être garder, etc. » Mais enfin, quelques centaines de familles, peut-être, mais pas plus. Et du côté anglais aussi, il y a la même attitude, c'est-à-dire en Afrique orientale, en général, il y a des propositions pour différents territoires, tous plus extravagants, parfois, les uns que les autres. Idée que, d'ailleurs, Roosevelt va reprendre encore au début de la guerre en évoquant la possibilité de placer des établissements juifs dans des terres vierges quelque part, y compris en Éthiopie, enfin, des idées tout à fait étranges. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui court hein, dans toute la deuxième moitié des années 30. Hein.
Oui, puis on voit aussi, comme vous le sous-entendez, cette question aussi d'un discours qui dérape, d'un discours qui devient de plus en plus nationaliste. Effectivement, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie qui disent « mais nous aussi, on veut se débarrasser de nos Juifs » et qui ne peuvent pas participer à cette conférence, qui auraient voulu.
Ils ne sont pas invités. Voilà. Ils ne sont pas invités parce qu'on a prévu le coup, parce que du coup, on avait déjà ce précédent-là. Donc, il n'était pas question d'inviter ces États de l'Europe centrale, parce qu'on savait à ce que cela donnerait, n'est-ce pas hein? Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 28 États participants. En réalité, il y en avait 32, y compris les puissances invitantes. Hein. Et dans ces 32, on ne trouve pas le Reich qui n'a pas été invité non plus, bien sûr. L'Italie, par solidarité avec son allié allemand. Et ces États d'Europe centrale. Par contre, on retrouve toutes les républiques américaines qui sont toutes présentes, y compris le Costa Rica, etc., quoi.
Et donc, effectivement, le discours se radicalise et certaines nations font entendre un discours qui dérape, un discours nationaliste, un discours antisémite.
Ah oui, c'est très clair. En particulier, c'est assez, disons, sous-jacent parfois. Et c'est clairement, enfin, c'est vraiment le plus clair, c'est dans les discours des pays du Commonwealth. C'est-à-dire essentiellement, en l'occurrence, l'Australie, le représentant australien. C'est tout à fait frappant le discours qu'il tient, c'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a pas de problème racial en Australie et qu'il n'est pas question d'en créer un. Voilà. C'est quand même dur. Et c'est dans cela que je disais que j'estimais aussi que finalement, cette conférence d'Évian, non seulement elle a été une désespérance pour les gens qui étaient coincés en Allemagne, enfin les Juifs qui étaient coincés en Allemagne, mais c'est aussi une désespérance dans la mesure où ça a été une tribune, dans une certaine mesure, pour exprimer ce genre de sentiment, alors qu'auparavant, ils se heurtaient à beaucoup de murs, bien entendu, mais ce n'était pas aussi unanime. On n'avait pas cette impression, vous voyez, d'unanimité. Et c'est en cela que la conférence d'Évian est un crève-cœur, hein, d'une certaine façon.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites aussi, dans le film, on le voit bien, que oui, alors cette conférence d'Évian est un crève-cœur. Cette conférence d'Évian, effectivement, est la conférence de la peur, comme le dit très bien le film. Mais elle n'est pas que cela. Vous ne le voyez pas comme un événement aussi négatif. Ça n'est pas l'abandon des Juifs tel qu'on le dit peut-être aujourd'hui trop rapidement.
Non, je pense que c'est un événement qui est à restituer dans l'histoire d'une diplomatie humanitaire qui cherche ses voies très difficilement, dont l'existence échappe aux intéressés, bien entendu. Hein. Mais c'est déjà assez important, finalement, que les États-Unis s'impliquent dans cette affaire, qu'il y ait une réunion, une conférence internationale, ce qui n'avait jamais été le cas sur ce sujet,
qu'elle aboutisse à un comité.
Qu'elle aboutisse à un comité intergouvernemental qui, ma foi, a été à deux doigts de réussir quelque chose, bien qu'on puisse se poser des questions sur la moralité éventuellement d'un accord qui aurait été possible avec une Allemagne qui était en fait désireuse d'avoir des devises, bien entendu, hein, mais qui n'a pas été loin du tout d'aboutir, et on peut se... Voilà, alors d'une certaine façon, je crois que c'est un événement qu'il ne faut pas isoler complètement non plus, vous voyez, on ne peut pas l'isoler par rapport à plein d'autres événements dont on a parlé, comme cette idée d'un état, d'établissement juif qui ne soit pas en Palestine, mais qui soit dans un désert quelconque. Et de même, dans l'histoire du traitement de la question des réfugiés, c'est quand même un événement, parce que ce comité intergouvernemental, il continue d'exister pendant la guerre. Il y a eu des réunions, dont aux Bermudes, par exemple, en 1943, de ce comité intergouvernemental. Alors, on a l'impression que c'est sur du vide, bien entendu, mais néanmoins, c'est de là que sortira un certain nombre de décisions tout à fait bénéfiques pour les réfugiés dans l'après-guerre.
Merci encore. Je rappelle, Catherine Nicot, que vous étiez donc la conseillère historique du film de Michel Vuillermet, Évian, la conférence de la peur. Donc c'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.